Chapitre 3. Proposition de mariage. L'abattement de Camilla, son inquiétude et sa tristesse, qui passaient jusqu'à ses sœurs, ne purent échapper à la pénétration de M. Tyrold, quoique Sir Hugh ne cessât d'en attribuer la cause aux girouettes que le vent agitait tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Il fut alarmé des peines de sa fille et résolu de saisir la première occasion de s'expliquer avec elle. Le lendemain après déjeuner, Lionel fut obligé de renoncer au plaisir d'embrasser Clermont. Il fallait partir pour Oxford. Il conseilla tout bas à Camilla d'être meilleure fille et de ne pas faire la folle. Mais comme il la vit soupirer, il se mit à rire du danger qu'elle courait de se voir maîtresse de 15 000 livres sterling de rente. Mais pour l'encourager, il l'assura qu'il la délivrerait d'une partie de ce fardeau si cela lui convenait, et la pria de vouloir bien l'informer de cet heureux jour. Quelques instants après, Camilla vit de sa fenêtre le major Sherwood qui s'avançait au grand galop à travers le parc vers la maison. Elle soupçonna son frère d'avoir imaginé pour elle quelque nouveau tourment. Elle ne se trompait pas. Il avait rencontré le major dans un hôtel à Tunbridge lorsque sa tête était encore pleine de cette idée délicieuse que le mariage de sa sœur serait une source inépuisable d'amusement et qu'il disposerait à peu près des richesses immenses de son beau-frère. En conséquence, charmé de ce qu'il croyait une excellente plaisanterie, il répéta ce qu'il avait déjà dit au bal de Norwich sur la fortune que Camilla pouvait attendre de Sir Hugh. Il cita comme un trait bien connu qu'à l'âge de 10 ans, elle avait été proclamée dans la famille et dans le voisinage pour l'héritière de son oncle. Mais il se garda bien de dire que ses dispositions avaient été changées en faveur d'Eugénia. Le major, en mettant pied à terre, ne demanda qu'après Sir Hugh, croyant M. Tyrold de très peu d'importance, puisqu'il n'était pas l'homme qui dut enrichir Camilla. Le baronet, selon son usage, épiait d'où venait le vent. Mais, espérant que le premier venu ne pouvait manquer de lui donner des nouvelles de Clermont, il reçut le major du meilleur cœur du monde. « Je vois, monsieur, lui dit-il, que vous êtes étranger, d'où je conclus que vous ne faites que d'arriver et que tout allait bien dans l'endroit d'où vous venez. » « Monsieur, répondit le major, je ne fais que d'arriver de Tunbridge, où j'avais l'honneur, sous les auspices de Mrs. Alberry, de voir tous les jours votre nièce. D'elle dépend le bonheur éternel ou le malheur de ma vie. » Il fit alors une déclaration formelle de la plus violente passion pour Camilla, parla de sa famille comme d'une des plus honorables, de ses espérances d'un ton assez vague mais très assuré, comme si le mariage n'eût pas été douteux. Il laissait à la disposition du baronet tout ce qui concernait cet établissement, espérant qu'il ne refuserait pas de voir son frère aîné, dont la fortune et la naissance étaient connues dans le comté de Lincoln, et qui certainement aurait l'honneur de le voir lorsqu'il aurait bien voulu prendre jour pour terminer cette importante affaire. Sir Hugh entendit cette harangue avec consternation. Le major était à la fleur de son âge, bien fait de sa personne, ayant le ton agréable, l'air martial. Le baronet ne douta pas un moment de son succès. Tous les projets chéris de son vieil âge, il les vit renversés et sa chère Camilla conquise par l'officier. Le major attendait impatiemment la réponse du baronet, qui, trop troublé pour en imaginer une, se promenait en murmurant entre ses dents et d'un air désespéré. « Mon Dieu, secourez-nous, pauvres hommes, que nous sommes faibles, ce que c'est de nous !» Les meilleurs projets du monde évanouis presque aussitôt que confus. Non, je n'en formerai de ma vie. Quelle bonne leçon que celle-ci! Qui sait, après cela, si Clermont n'emmènera pas Eugénia en quelque pays étranger? Si d'autres, habillés de rouge, ne m'enlèveront pas ensuite Indiana? Après avoir tout fait pour le mieux, vous verrez qu'ils me laisseront seul si j'en accepte Madame Margland et le docteur, le tout, afin que je ne puisse trop prendre de plaisir dans ce monde, puisque je ne les aime guère tous les deux qu'en bon chrétien, ce qui n'est pas un péché si je ne me trompe. » Enfin, cherchant à se remettre, il s'assit et dit « Ainsi, monsieur, vous êtes venu pour m'enlever ma chère petite nièce. C'est dur pour un oncle qui l'a destiné à vivre avec lui. Cependant, je ne peux pas le trouver mauvais. Mais je vais vous dire une chose que je vous prie de ne pas oublier. La voici. Si vous ne la rendez pas heureuse, vous me percerez le cœur, car elle est ce que j'aime le mieux dans le monde. Et je l'ai bien peu prouvé, puisque je ne lui laisse pas un shilling, et c'est pour cela que je vous en aime mieux que si c'était pour Eugénia. « Monsieur !» s'écria le major étonné. Deux autres amants, continua Sir Hugues, sont venus courtiser Eugénia et Indiana. Un autre, habillé tout comme vous, pendant que j'étais malade, autant que je me le rappelle par la description qu'on m'en a faite, sont venus avec les mêmes intentions. Mais aucun ne s'était encore présenté pour Camilla, si ce n'est vous, parce que mon frère n'a rien à lui donner qu'une bagatelle, ayant à pourvoir de ses épargnes une autre jeune fille, outre Lionel, celui qui coûte le plus, car les écoles d'Oxford sont fort chères. » Sir Hugues crut alors apercevoir dans le major un air de surprise et d'inquiétude. Et, l'attribuant à l'accueil désagréable fait à sa proposition, il lui demanda pardon et lui répéta combien il respectait le désintéressement de son choix, ce qu'il regardait comme la marque d'un bon cœur. Le major hésita complètement, et, soupçonnant que Lionel l'avait mal informé, si même il n'avait voulu le jouer, il sollicita la permission de revenir. Sir Hugues répondit qu'il fallait d'abord qu'il prévînt sa nièce, qu'il ne pouvait prendre sur lui cette visite sans en avoir obtenu son consentement. Alors il tira la sonnette et dit à Jacob d'appeler Camilla. Le major Sherwood était dans un embarras excessif. Il ne lui paraissait pas possible ni de se retirer, ni d'épouser sans fortune une femme qu'il croyait une riche héritière. Tout ce qu'il put résoudre à la hâte, ce fut de laisser passer la chose pour le moment, de demander raison à Lionel, d'éclaircir sa méprise et d'en faire tomber le blâme sur lui. La présence de Camilla ne fit qu'accroître le trouble de Sir Hugues. À peine put-il dire ces mots « Ma chère, si vous voulez quitter votre famille, un parti se propose pour vous. Je crois qu'il est juste que vous en ayez connaissance, quoique la seule idée de vous perdre me cause une peine trop forte pour ma pauvre tête. Car enfin, que ferais-je sans ma chère petite fille, à qui j'avais songé pour être la consolation de mes vieux ans? Cependant, je vous prie de n'en tenir compte, au cas que ce jeune capitaine vous soit agréable. » « Ah, mon cher oncle, s'écria-t-elle, votre Camilla ne pourra jamais vous rendre la moitié des consolations qu'elle reçoit de vous. Gardez-moi de grâce avec vous et pour toujours. Je suis trop obligée au major Sherwood et je le prie de recevoir mes remerciements les plus sincères. » Ce n'était pas une chose nouvelle qu'un refus pour le major, qui, plus d'une fois, avait cherché les moyens de réparer ses affaires par un mariage de prudence. Cependant, jamais son orgueil n'avait aussi bien soutenu le choc, car dans cette démarche, il n'avait pas même supposé la possibilité du refus qui lui procura, sans le prévoir, l'heureuse occasion de sortir d'embarras et de faire une retraite honorable. Il s'inclina profondément, se dit le plus malheureux des hommes, sans trop savoir ce qu'il disait, et se hâta de sortir pour aller demander une explication à Lionel. Mais il n'avait pas fait un mille qu'il abandonna ce dessein dans la crainte du ridicule qui pouvait en être la suite. Combien ne se moquerait-on pas d'un homme qui demanderait raison de ce qu'une femme n'a pas de fortune? Il s'en tint donc sagement à ce refus, qu'il avertissait de s'informer avec plus de soin, et sur un témoignage moins équivoque que celui d'un frère, quelle serait la dot des jeunes filles à marier. Sir Hugues fut quelque temps sans s'apercevoir qu'il était parti. Enchanté de la résignation du major, son projet favori de vivre avec Camilla lui rendit le courage. Et, dans un transport de joie, il la pressa contre son sein. « C'est maintenant, je l'espère, que nous vivrons ensemble, s'écria-t-il. Plus de ces freluquets qui viennent pour nous séparer. Non que je voulusse, ma chère Camilla, m'opposer à votre mariage si c'était avec un parent, un voisin. Mais vous voir enlever par un étranger qui ne connaît pas un seul d'entre nous, c'est une de ces choses dont la seule idée me navre le cœur. Ainsi, j'espère que cela n'arrivera plus, car ces épreuves-là ne sont pas favorables à ma convalescence. » Puis, se retournant, comme pour dire quelque chose de consolant au major, il fut tout étonné de ne le plus voir. « Je ne puis dire, s'écria-t-il, que mon intention fut de le renvoyer si vite, car il n'a pas trop mauvaise mine pour un amoureux sentant. Ce qui, m'a-t-on dit, est ordinairement une situation pénible et dans laquelle on ne songe guère qu'à soi-même. » Alors il proposa de faire un tour de promenade pour voir si Clermont ne viendrait pas. Il reconnut à la vérité que le vent était contraire, mais il était assuré qu'en certaines occasions, son cher neveu ne serait pas arrêté par de telles difficultés.